Bienvenue donc à la deuxième réunion, deuxième séance du séminaire de Jean Lacanien sur le thème croyance, certitude et conviction. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'écouter Irène Touton et Jean-Jacques Auroc. C'est Irène qui va commencer. Son titre c'est Croyance, certitude, conviction, quel savoir. Je te passe la parole.
Donc, les trois thèmes de l'intitulé de ce séminaire ne sont pas spécifiques au champ psychanalytique. Chacun pourrait s'y reconnaître, et pourtant, notre expérience clinique nous amène à les considérer autrement et à les distinguer sensiblement. Je propose de le faire en y ajoutant un quatrième, celui de savoir, à partir de ce qui peut s'élaborer dans le cadre d'une cure. En effet, il me semble que ce savoir que chacun traite à sa manière dans une analyse rencontre des rapports complexes que ces termes entretiennent entre eux. Prenons celui de croyance. Nous constatons, comme Lacan le souligne, que, je le cite, « quiconque vient nous présenter un symptôme y croit ». L'idée étant que ce symptôme dit quelque chose qui est à déchiffrer. Cependant, selon lui, y croire et le croire n'ont pas la même portée et marquent une différence de structure entre névrose et psychose. Dans le cas des hallucinations acoustico-verbales, par exemple, le sujet non seulement y croit, mais les croit. La croyance ici peut prendre le poids d'une certitude, voire d'une conviction délirante. Ainsi, cette femme, se plaignant d'angoisses corporelles récurrentes, qu'elle n'explique pas, sauf si celles-ci prennent un caractère trop envahissant. Elle n'est pas hallucinée, à ma connaissance, mais elle a une croyance indéfectible en la lune, responsable, d'après elle, des variations de ses angoisses. Elle ne relève aucunement l'équivoque de l'astre, métaphore du sexe féminin, et me déclare « Vous n'y croyez pas, mais moi, j'y crois. » La lune s'est manifestée pour la première fois après qu'elle eut confié à une amie qu'elle avait un retard de menstruation. Celle-ci lui avait alors dit « T'en fais pas, elles vont venir, c'est la lune en ce moment. » Elle était inquiète et ajoute « On pense qu'on va être enceinte, car en ce temps-là, il n'y avait pas la contraception. » Enfin, il n'y avait pas de contraception. Elle évoque un avortement survenu quelque temps plus tôt. C'est dans l'après-coup de cette interruption de grossesse et à la suite de la remarque de son amie, en deux temps donc, que la psychose s'est déclenchée et qu'elle a commencé à éprouver corporellement l'influence de la lune. Ces angoisses étant souvent liées à des parties du corps telles que le diaphragme, la poitrine, la tête. On peut dire qu'elles, les angoisses, sont réellement réglées en fonction du cycle lunaire, le calendrier auquel elle est très attentive ayant toute son importance dans l'affaire. On peut dire aussi que le signifiant « lune » représente cette femme, mais pas pour un autre signifiant, la chaîne se trouvant interrompue, bloquée, gelée sur ce signifiant auquel elle reste fixée dans sa matérialité et qui ne fait pas lien. On le constate par son incapacité à jouer de ce signifiant. Il n'y a aucune équivoque possible. La lune est l'astre auquel elle croit avec certitude. Elle est lune, que j'écris en deux mots, L'UNE, comme on dit la femme, celle qui fait rapport. Toutefois, de s'en expliquer, c'est-à-dire de faire un pas de côté, n'est pas sans effet sur l'ampleur de ses angoisses et de certains phénomènes de corps. Elle traverse des périodes où elle constate, non sans étonnement, que ça va. En dépit de sa conviction délirante, la présence de l'astre peut s'avérer plus supportable. Revenons à la formule « y croire à son symptôme » que je développerai à partir de la névrose. Qu'en est-il pour le névrosé de son « ses symptômes » Il commence par y croire et finit éventuellement par savoir y faire. Cette « y », cette petite lettre, indique un lieu, en l'occurrence ici un savoir, et pourrait aussi bien figurer la réduction du symptôme à un symbole mathématique, dénudé de sens. N'est-ce pas ce vers quoi tend une analyse? Mais à quel savoir renvoie le symptôme? Et qu'en est-il de cette croyance au départ de toute cure? Qu'en advient-il pendant, au terme, voire après une analyse? Cette question du savoir dans une analyse résonne avec le concept de sujet ou autre supposé savoir. Dans son séminaire « L'acte psychanalytique », Lacan définit ce dernier, du côté de l'analyste, comme support du transfert, en précisant toutefois que celui-ci ne le sait trop bien qu'il ne l'est pas, cet autre supposé savoir. Il feint de l'être, il est en place de semblant d'objet A. Pourtant, par cet artifice, une analyse peut s'amorcer et prendre forme. Un savoir peut se déposer à l'insu de l'analysant. C'est parce que ce dernier y croit que l'autre consiste, l'autre avec un grand A. Cette croyance préexiste à l'analyse. Elle est au fondement de tout lien, c'est-à-dire de tout discours, et une analyse permet d'en prendre la mesure, d'en faire les tours par ses propres dits. Nous verrons dans la suite de cette contribution comment l'analysant, dans sa croyance, peut être amené à faire consister l'autre avec un grand A, notamment dans l'élaboration d'un fantasme. C'est aussi dans ce séminaire sur l'acte, ainsi que dans un écrit datant de la même époque, la proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école, que Lacan emploie pour la première fois le terme d'analysant, ce participe présent qui traduit la part qui revient à celui-ci dans ce qui se joue durant le temps de la cure. Ce qui est à traiter se fait à partir de la parole de l'analysant dans son rapport au langage et à la langue. La langue en un mot. Soit son histoire avec un Y et non son histoire.
Sans Y.
Sans Y. Pour Lacan, l'analyste a ici une responsabilité, celle, je le cite, d'un discours qui soude l'analysant, pas à l'analyste, mais au couple analysant-analyste. C'est dans la troisième. Il me semble que cette notion est importante, car elle apporte un nouvel éclairage sur cet autre supposé savoir auquel croit l'analysant dans le processus analytique. Elle donne l'idée qu'analysant et analyste sont du même côté du langage et qu'il n'y a donc pas de métalangage. L'analyste n'est pas extérieur à l'opération. Il est en place de semblant d'objet A. Cela signifie, selon moi, qu'il se prête au jeu du langage et à ses équivoques quand la structure de l'analysant le permet. En ce sens, semblant d'objet A et supposé savoir me paraissent étroitement liés. Dans la troisième, Lacan parle du petit A comme, je le cite, de l'objet même dont il n'y a pas d'idée. Il l'écrit d'une lettre pour lui donner une place logique dans le langage, mais cette écriture ne lui confère pas de sens. S'il est cause du désir, c'est par sa vacuité. Être en place de semblant de cette vacuité indiquerait que le semblant n'a d'autre fonction que la place qu'il occupe. Il n'est pas semblant de, mais marque un espace dans le champ de la parole et du langage et ne représente rien d'autre. Il n'y a pas un seul discours où le semblant ne mène le jeu, nous dit Lacan dans la troisième. Si l'on considère que le discours est ce qui fait lien, le semblant en serait-il un des opérateurs ? Nous pouvons retrouver cette fonction d'objet A dans l'écriture que Lacan donne du fantasme. Il le met en rapport avec le sujet barré par un poinçon, montrant par cette barre la division du sujet. Avec cette écriture, on se rend compte que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le fantasme n'est pas pur imaginaire. Dans le séminaire « La logique du fantasme », Lacan décrit plutôt comment l'imaginaire accroche et entoure le petit A, s'y accumule. Le modèle freudien du fantasme, un enfant est battu, le concentre en une phrase signifiante que Lacan invite à admettre telle qu'elle est, soit un axiome. Dans l'expérience analytique, il me semble que le fantasme s'élabore à partir de cette croyance en l'autre supposé savoir, à l'insu de l'analysant, répondant ainsi à ce qui se joue dans le transfert. Ainsi, il résulte, le fantasme, de l'analyse et est partie prenante du savoir singulier qui se constitue. Lacan le situe entre désir et réalité. Et l'analysant tente de s'en dépouiller, s'interrogeant parfois sur la part de réalité de ses constructions imaginaires qui, comme je l'ai précisé, ne relèvent pas du pur imaginaire. L'idée qu'un tel savoir s'élabore ne va pas de soi pour l'analysant. Et il me semble que cette difficulté apparaît dans l'écriture même du fantasme avec le sujet barré, pris dans sa division. Il ne sait pas. Cela lui échappe. Et néanmoins, il poursuit son chemin de croyant. Il se soutient dans le transfert de ce A, ce petit A, qui cause son désir. Mais cela n'est jamais acquis, et ça résiste, pour certains jusqu'à la rupture. Cela pose la question de l'insu portable, propre à chacun. C'est cet insu que l'on porte, qui nous encombre et pourtant nous incombe. À chacun sa croix. Cela pose aussi celle du désir et ce qui le cause, figuré par ce petit A dans la formule du fantasme. Le trop ou trop peu de désir peut faire symptôme. Cependant, contrairement à ce dernier, il est moins identifiable et a une part d'inavouable. Il peut faire défaut, rater, nous lâcher. Lâchement même, quand l'on voudrait le maintenir. Là réside tout son paradoxe. Alors que le propre du symptôme, c'est qu'il ne nous quitte pas. Il se déplace sous diverses formes, mais comme le réel, il n'a de cesse de revenir. Néanmoins, il me semble que désir et symptôme ont partie liée, notamment dans la construction du fantasme au cours d'une analyse. Dans la névrose, le rôle de celui-ci, du fantasme, est de traduire la vérité des symptômes, selon Lacan, comme une sorte de béquille, de corps étrangers, dont la fonction est de subvenir à une certaine carence du désir, pour autant qu'il est intéressé à l'entrée de l'acte sexuel. Son élaboration dans l'analyse participe donc au maintien de celle-ci. Il est des conditions qui soutiennent le désir de l'analysant, à l'insu de ce dernier qui, si l'on repère quelques coordonnées, ne peut en saisir l'enjeu, la cause. Il traduit ce que le névrosé croit, imagine, une complétude entre les sexes. C'est ici, à cette limite, que je situerai ce que Lacan appelle la vérité des symptômes. Le symptôme est comme un point de butée, un impossible, là où le fantasme du névrosé est tentative de faire rapport sexuel. La construction du fantasme constitue en soi la nécessité de masquer la jouissance du symptôme à laquelle se heurte l'analysant. Est-ce cette fonction de masque du fantasme que Lacan qualifie de corps étrangers, dans la citation que j'ai faite précédemment ? Cela m'évoque une remarque de Lacan à propos du petit Hans qui apparaît dans la transcription de sa conférence de Genève sur le symptôme. il y est question des premières érections de l'enfant. Freud les qualifie d'auto-érotiques, mais Lacan n'est pas d'accord. Selon lui, la jouissance qui est résultée de ce vivimacher lui est étrangère, au point d'être au principe de sa phobie. Phobie signifie qu'il en a la trouille, nous dit Lacan. Pour Lacan, ce symptôme est l'expression du rejet de cette jouissance qu'il considère de ce fait comme hétéro et non auto-érotique. La vérité que traduit ici le symptôme de Hans est vérité de jouissance, mais qu'il ne peut assumer et qui nécessite un montage phobique, manifestation de son angoisse. Est-ce cette vérité-là qui amène Lacan à parler du fantasme comme d'un corps étranger? Cela se conçoit, enfin peut se concevoir, si l'on considère que sa résolution, celle du fantasme, touche à un point de réel entreaperçu, soit à une jouissance énigmatique, angoissante pour le parler-être. Comment une telle résolution peut-elle se produire et quels effets a-t-elle sur la croyance de l'analysant? Pour y répondre, nous prendrons appui sur ce qui est là, en filigrane, dans le processus analytique et dont la construction du fantasme rend compte, l'interprétation. Nous avons vu comment, par le fantasme, l'analysant tentait d'attraper quelque chose de son désir et de sa croyance de faire rapport entre les sexes, dont il donne ainsi sa version, son interprétation dans une adresse à l'autre supposé savoir. Nous avons vu également que l'analyste n'était pas extérieur à l'opération, se situant du même côté du langage que l'analysant. C'est dans cette logique du transfert, me semble-t-il, qu'est prise l'interprétation analytique. Elle est en quelque sorte confirmation du savoir qui s'élabore au cours de l'analyse et dont l'analysant n'a pas idée. Elle n'y ajoute rien d'autre, c'est-à-dire pas d'autre sens. Elle ne donne donc aucun sens à ce qui se joue. En revanche, elle joue sur l'équivoque des dits, de la parole, sur cette part insaisissable du désir où se situe le par-l'être. Ce n'est pas sans effet sur cette production de sens qu'est le fantasme. Cela touche également la croyance de l'analysant quant au déchiffrage de ses symptômes. Le déchiffrage portant sur le sens qu'on attend de l'autre, du grand autre, ou qu'on y met. On saisit ici que l'interprétation analytique a une visée de réduction du sens qui n'est pas sans évoquer à quoi se réduit le fantasme selon Lacan, soit un axiome. Cette visée de réduction du sens fragilise, le rapport au savoir de l'analysant et peut amener à une interprétation conclusive. Ce savoir qu'il attribuait à l'autre, avec un grand A, sans en avoir idée, lui revient alors et entame donc cet autre supposé savoir auquel il croyait. Cette faille dans l'autre peut inverser le processus et ouvrir sur une vérité de jouissance. Ce que l'analysant saisit à ce moment-là, de sa singularité, touche à sa division, lui échappe, lui est étranger, fait énigme. Il ne veut, ne peut rien savoir de ce réel dont il a fait néanmoins l'expérience. La vérité s'oublie, nous dit Lacan dans la troisième, elle ne peut que se midire. Pourtant, cette vérité entreaperçue, énigmatique, laisse une trace, immuable. Peut-on dire que cette trace fasse certitude? C'est une question. Cependant, à la différence de la certitude psychotique, chez le névrosé, le réel est noué au registre du symbolique et de l'imaginaire. Je dirais que cette trace est là, malgré soi. C'est peut-être ainsi que je lirai la proposition de Lacan concernant la réduction du sens. Je le cite, « L'identité de soi à soi s'écrit X égale X ». C'est dans la troisième. Cette expérience singulière, qui représente une conclusion d'analyse possible, invite le par-l'être à un nouveau rapport au savoir, ce qu'il ne peut affirmer que dans l'après-coup, c'est-à-dire lorsqu'il l'a vérifié. Si ce rapport est bien sûr différent pour chacun, il me semble toujours toutefois empreint, comme je l'ai souligné, de cette faille dans l'autre, avec un grand A, et de la jouissance énigmatique entreaperçue. Ce n'est pas sans incidence sur notre rapport au désir et aux symptômes. L'aperçu de l'artifice du grand autre pour couvrir le réel a fragilisé les croyances du par-l'être. Il s'en trouve moins assuré, si ce n'est cette trace qui lui offre la possibilité de frayer différemment son chemin, en tentant de savoir y faire. Je vous remercie.